La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose le commentaire d'un texte de la Bible centré sur le Christ.
Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue dans cette émission La prédication protestante. Je suis le pasteur Laurent Lenoir, pasteur de l'Église évangélique Assemblée de Dieu de France, de la ville de Groyer, dans le Tarn. Pour ce dimanche, je vous propose que nous continuions sur ce thème « Un cœur sans partage ». J'ai eu une première partie la dernière fois, c'est réécoutable sur le podcast, et nous allons voir donc une deuxième partie. Je voudrais, pour ce faire, revenir au premier livre des Chroniques, au chapitre 29, verset 19. Et il est écrit ceci, « Donne à mon fils, c'est David qui parle, ça concerne Salomon, donne à mon fils un cœur sans partage. » La version anglaise biblique dira « un cœur », c'est ça que j'appuie souvent sur ce mot, « un cœur parfait ». Parfait, ou si vous préférez, un cœur dévoué, un cœur intègre, voilà, un cœur rempli de confiance. Alors on peut bien sûr continuer à se poser cette question, qu'est-ce qu'un cœur justement parfait, sans partage? Dans le premier livre des Rois, au chapitre 8, au verset 61, il est écrit « Que votre cœur soit tout entier à l'Éternel, notre Dieu, comme il l'est aujourd'hui, pour marcher selon ses prescriptions et pour observer ses commandements. » Donc, à nouveau, ici, dans cette référence biblique que nous venons de lire, il est question du cœur sans partage, du cœur parfait, du cœur dévoué, intègre. Mais nous remarquons dans ce texte que le cœur, dans ce sens-là, est en rapport direct avec la manière dont nous marchons avec Dieu ou que nous décidions de marcher avec Dieu. Un cœur sans partage, dévoué, confiant, parfait, c'est le cœur qui va justement marcher dans les voies de Dieu, qui va marcher finalement selon Dieu. Nous l'avons lu, 1 Roi 8:61, pour marcher selon les directives, les prescriptions divines, la volonté finalement de Dieu qui est bonne, agréable, qui est parfaite pour nous, donc les hommes ici-bas sur la terre. Et donc observer les commandements de Dieu. Donc c'est là le point fort, le point d'orgue. C'est une marche juste devant Dieu. Mais pour qu'il y ait une marche juste devant Dieu, il faut qu'il y ait également donc un cœur ouvert, un cœur disponible, un cœur qui va chercher à se tourner, et quand on parle du cœur, on parle de notre vie intérieure, bien évidemment, mais un cœur qui va chercher à se tourner vers Dieu, à établir un contact avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Je connais, certainement vous aussi, pas mal de gens qui ont l'esprit ouvert, qui sont curieux de tout et de tous, c'est une marque d'intelligence. Mais malgré cela, beaucoup d'entre eux refusent absolument de se convertir à Jésus-Christ. J'en connais d'autres qui sont ouverts intellectuellement parlant. Ils cherchent toujours à apprendre, mais ne sont pas pour autant disposés à croire au Seigneur Jésus, à marcher donc d'une manière juste devant Dieu, en Donc, observant sa parole, ses prescriptions, ses commandements avec l'aide du Saint-Esprit, bien entendu. Puis, il y a tous ceux qui sont ouverts culturellement, amoureux du beau, du rare, de l'insolite, cherchant un enrichissement intérieur au travers de la découverte d'autres cultures, c'est bien. Mais ce n'est malheureusement pas suffisant pour recevoir Jésus comme son sauveur personnel. On pourrait parler de ces personnes qui ont une mentalité ouverte, pleine de tolérance à l'égard des autres, de la vie des autres, des idées des autres et même de la foi des autres. Mais cela, voyez-vous, ne garantit pas qu'elles veuillent, ces personnes, du salut que Dieu leur offre. Parce que pour cela, ce qu'il nous faut et ce qui compte, et c'est là notre sujet, justement, c'est que nous ressemblions à ces hommes, ces femmes, qui sont donc devant nous quand on lit l'Écriture, l'Ancien, et particulièrement aussi le Nouveau Testament, et qui ont un cœur grand ouvert à l'Évangile. Par exemple, si vous prenez dans votre Bible, dans le Nouveau Testament, après les quatre évangiles, le livre des Actes des apôtres, vous allez voir de nombreux exemples soulignés, cités, mis donc en évidence d'hommes et de femmes qui, au préalable, n'avaient pas un cœur parfait, n'avaient pas au préalable, au départ, un cœur sans partage, dévoué, confiant en Dieu, pas du tout. Vous lirez ce livre des Actes des apôtres et vous allez vous rendre compte que quand ils vont être au contact de l'Évangile par le moyen des apôtres du premier siècle, comme l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, etc., vous allez vous rendre compte que ces hommes ou ces femmes n'étaient pas dans cette attitude-là. Et finalement, ils nous ressemblent, nous, les êtres humains de ce 21e siècle, dans beaucoup de domaines à ce sujet, n'ayant pas au départ un cœur finalement ouvert. Mais ce qui attire notre attention, c'est que ces hommes ou ces femmes, eh bien, avaient un cœur à un moment donné qui s'est ouvert, qui s'est grand ouvert, qui donc s'est ouvert à l'Évangile, à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Pourquoi je dis cela? Parce que rien n'est plus important. Et c'est à ce niveau que Dieu nous attend. C'est à ce niveau qu'il est prêt à venir encore en ce dimanche, encore en ce jour, venir à notre rencontre. Qui que vous soyez, aujourd'hui, ouvrez votre cœur, ouvrez-le. Personne d'autre peut le faire à votre place. Dieu ne forcera pas la porte de votre cœur. Quelqu'un l'a donc peint, si je ne me trompe pas. Et cette peinture, je pense qu'elle est visible dans un des musées, je crois, d'Angleterre, hein, de Londres plus précisément, où l'on voit cette peinture avec une porte. Et la chose étonnante qui attire l'attention de celui qui scrute cette peinture, c'est que il y a une seule poignée et elle se trouve à l'intérieur. Non pas à l'extérieur. Pourtant, nos portes ont une poignée à l'intérieur et à l'extérieur. Comme ça, eh bien, je peux ouvrir d'un côté et de l'autre. Mais là, la porte est à l'intérieur. C'est comme si la porte de votre maison n'avait pas de porte, de poignée, pardon, à l'extérieur. Il n'y en avait qu'une à l'intérieur. Si, eh bien, quelqu'un peut ouvrir la porte, il n'y a que vous et vous seul. Et c'est la même chose avec notre cœur. La poignée, elle se trouve à l'intérieur. Et c'est à vous d'ouvrir votre cœur tout grand à la grâce de Dieu et de le faire dès aujourd'hui afin d'avoir ce cœur qui va se laisser remplir, la présence de Christ qui va purifier votre cœur. D'un cœur dur, il va le changer à un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur sensible, ouvert, attentif, réceptif, un beau réceptacle pour tout ce qui vient du cœur même de Dieu, de sa parole, du Saint-Esprit, afin d'avoir un cœur, donc sans partage, dévoué, confiant, reprenons le mot selon la version anglaise, parfait pour garder la parole de Dieu. Voyez-vous, dans le livre du Deutéronome dans l'Ancien Testament et au chapitre 17, il va y avoir des prescriptions, des instructions que Dieu va donner pour les futurs rois qui se mettront en place au milieu du peuple d'Israël par la suite, pour que ces rois, pour que ces hommes aient un cœur bon. Que faut-il faire? Il faut, selon l'instruction de Dieu, lire la parole de Dieu, s'en nourrir. C'est un pain qui nourrit notre âme. Apprendre aussi la crainte de Dieu, c'est-à-dire le respect de Dieu, le respect de son autorité, le respect de sa majesté, de sa souveraineté. Apprendre également donc à marcher selon ce que j'ai lu dans la parole, ses préceptes, ses ordonnances, ses commandements, ses directives, ses enseignements qui vont être importants pour donner à mon cœur cette droiture, cette perfection, ce dévouement, finalement, ma vie engagée avec Dieu, ma vie chrétienne, ma vie donc ponctuée par la foi en Jésus-Christ. Voyez-vous, il faut qu'il en soit ainsi. Ne jamais, ça c'est un piège dans lequel il faut surtout pas tomber, ne jamais laisser notre cœur s'élever au-dessus des autres et dire mais je suis meilleur qu'eux. Ça, c'est de l'orgueil, c'est-à-dire une estime excessive de soi-même, et de dire, voilà, Dieu m'appelle à ceci, me place dans tel service, peut-être plus important, plus large que d'autres. Non, non, il est important, l'apôtre Paul l'a souligné lorsqu'il a écrit sa lettre aux Philippiens, il va dire, et cette épître aux Philippiens, vous la trouverez dans votre Bible, dans le Nouveau Testament, à un moment donné, il souligne le fait que, eh bien, il faut savoir regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Souvenons-nous que le Dieu qui élève est aussi celui qui peut abaisser. Lorsqu'il voit l'orgueil se lever dans un cœur, lorsque cette personne, eh bien, a ce sentiment d'être plus que les autres, pardonnez. Mais Dieu est obligé d'agir, eu égard à ce sentiment qui n'est pas bon, qui est un poison, et peut-être même sera-t-il amené à agir d'une façon qu'on pourrait appeler, entre guillemets, sévère. Ce que Dieu veut, c'est que nous le servions avec un cœur parfait. Je suis intéressé par ce que l'apôtre Paul va enseigner à l'église d'Éphèse dans les premiers siècles, et vous avez sa lettre, donc cette épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 3 et verset 17. Et le verset 17 nous dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, etc. Si je prends les versets qui précèdent, versets 14, 15 et 16, je me rends compte que l'apôtre Paul demande cela dans une attitude de prière. Il le dit dans une attitude de requête, de prière, d'intercession, car au verset 14, il dit à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'autres puissamment fortifié, mais de ce fait, dans l'homme intérieur, alors l'homme intérieur, c'est le cœur, voyez-vous, c'est là où il y a le siège des émotions, des pensées, donc des réflexions, des décisions, comme quoi Le cœur, quand on en parle ainsi sur le plan spirituel, sur le plan de ce regard d'approche divine, biblique, c'est plus que finalement cet organe qui pompe régulièrement le sang, le projette dans nos artères, dans nos veines, qui nous donne la possibilité de vivre. D'accord, ça va bien plus loin que cela. C'est spirituel. Et donc, il prie dans ce sens-là, en sorte que Christ habite, et cette prière, elle est pour vous qui écoutez aujourd'hui dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés, fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc, que Christ habite dans vos cœurs, ça va entraîner tout cela. Et quand je le disais il y a quelques instants, en relation avec le verset précédent, le verset 16, Paul crie ici que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Pour des croyants, il s'agit bien sûr de voir la présence de Christ prendre davantage de place, davantage d'ampleur, et ceci au moyen d'une foi renouvelée, j'ai presque envie de dire constamment renouvelée. C'est Médébiel qui a dit ceci: c'est par la foi, vivifiée par l'amour, que le Christ prend possession de nos cœurs, et c'est dans la mesure où la foi est profonde, vive, agissante, que l'hôte divin, on parle de Jésus, fait sentir le Saint-Esprit, fait sentir sa présence dans l'intime de l'âme. Donc l'image de l'habitation, dans le choix même du terme grec employé, renvoie tout simplement à une demeure permanente, à une résidence principale plutôt que un hébergement temporaire. Chers auditeurs, auditrices, il faut savoir qu'on accueille d'abord Christ comme notre hôte, et ensuite on lui offre notre cœur comme sa propre maison. Dieu va habiter en nous par le Saint-Esprit. La Bible dit qu'alors on devient une habitation de Dieu en esprit. On devient le temple du Saint-Esprit. Que notre cœur, finalement, c'est cette maison qu'il accueille, c'est-à-dire notre vie intérieure. Et Calvin a dit ceci, et d'une manière très juste, ce réformateur Calvin va dire: par la foi, nous ne devons pas contempler le Christ de loin, mais le recevoir en l'embrassant, dans notre âme, afin qu'il habite en nous, afin qu'il habite en nous. C'est très important. Et ceci nous amène donc, c'est là l'enseignement que Paul donne dans son contexte de ce texte que nous avons lu, Éphésiens chapitre 3, verset 17: nous allons être enracinés et fondés dans l'amour. Et le terme employé, donc le mot, on y revient, selon la version anglaise, parfait, montre une action accomplie une fois pour toutes, comme des racines. Et un fondement se pose au départ, sans qu'on ait besoin d'y revenir, et dont l'effet continue de se faire sentir dans le présent. Finalement, c'est plus qu'un sentiment ou une impulsion passagère. C'est un amour acquis depuis longtemps, dont le bienfait se poursuit constamment, toujours, en tout temps, chaque jour. Et je dirais que la référence que donne l'apôtre Paul, qui est une référence à l'agriculture, il parle d'enracinement, ou à l'architecture, il prend cette image par rapport au fait d'être fondé, le fondement, vise à la fois la profondeur et la solidité de notre rapport de cœur, d'un cœur sans partage, intègre avec l'amour, que Dieu nous propose, qui est opposé à la superficialité, bien entendu, là il n'y a pas d'enracinement, ou à la fragilité, et il n'y a donc pas de fondement. C'est finalement l'habitation, j'insiste, du Christ en nous, et l'action de son Saint-Esprit dans notre être intérieur, afin que, c'est là l'expression, afin que, qui nous enracine et nous fonde dans ce véritable amour, tout en nous ouvrant une compréhension plus grande. Vous puissiez comprendre, verset 18, chapitre 3 de l'Épître aux Éphésiens, que vous puissiez, excusez-moi, comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, bien entendu. Donc, ça, c'est un point essentiel, un point important, un point incontournable. Et pour ainsi dire, être avec un cœur intègre, parfait, donc un cœur sans partage, un cœur selon Dieu, un cœur selon, je dirais même, le cœur de Dieu, il suffit simplement de nous approcher de lui et de le laisser agir dans nos vies et dans nos cœurs. Avant de terminer cette deuxième partie, nous en verrons une autre la prochaine fois. Je continuerai certainement sur ce point avec l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 3. Mais, mes chers auditeurs, chères auditrices, il y a un point important. Il est donc incontournable de laisser notre cœur se positionner entre les mains du Christ, de Jésus, du Saint-Esprit. Donnez-lui votre cœur sans partage. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.
Je te désire tout près de moi, ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, brise sous mes mains. Loin du péché, sauve. cacher. Sauveur fidèle, tiens-moi caché, tiens-moi caché près de toi.